De 2015 à 2016,
du PBD de Neuchâtelois à l'UDC qui change de roi,
toute l'actualité,
ou presque,
dans Carrément Méchant.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 19e épisode de Carrément Méchant. Bonne année à toutes, bonne année à tous et bonne année Émilie.
Bonne année Yann, je crois qu'on se l'a même pas dit hors micro en fait.
C'est vrai, on est à ce point-là professionnel, on attend d'avoir commencé l'émission pour pouvoir se dire bonne année de manière tout à fait naturelle, comme
voilà,
ça,
afin
ça se ressent.
Une sincérité.
Exactement, je te fais la bise, alors attention. Voilà,
parce qu'on en fait trois chez nous.
Exactement, ça il faut le savoir. C'est très important si vous venez nous voir ou si vous venez nous faire la bise dans un autre pays.
Voilà,
que vous dites...
non, il faut surtout pas en faire deux, parce que deux, oui, c'est le seul nombre de bises qui ne se fait pas en Suisse. Alors vous allez embarrasser tout le monde si vous en faites deux. Vous pouvez en faire une éventuellement.
Ou un pain dans la gueule si vous aimez pas la personne,
voilà.
Mais
ça, c'est plutôt
deux,
en Suisse allemande.
Très mal vu, c'est comme la peine de mort, on l'a plus réintroduit depuis très longtemps.
Voilà.
On va parler évidemment de l'actualité suisse et de l'actualité internationale. On va même commencer par l'actualité internationale, comme de coutume. Et Émilie, justement, on a commencé l'année dans l'alcool, donc on a un peu oublié ce qui s'est passé. Tu voulais nous faire un petit florilège des événements s'étant produits les dernières semaines, là où Carrément Méchant n'était pas là pour les commenter, pour les satiriser, pour s'en moquer.
Exactement. Alors en fait, c'est aussi par excuse de notre part, et plutôt de ma part, comme Yann me l'a fait gentiment remarquer au début de l'émission, qui est que par ma faute, nous avons dû repousser cette première émission d'une semaine, mais ne vous en faites pas. J'ai pensé à vous et puis du coup on va rattraper le temps perdu ensemble et je vais vous parler de plein de choses du coup. Alors je vais simplement vous parler des événements marquants de cette fin d'année 2015 et du début 2016 qu'on n'a pas pu couvrir ensemble. Alors tout d'abord, on a trouvé un accord pour le climat lors de la COP21 de Paris. Vous savez, la conférence à laquelle on vire avec 5 limousines et un jet privé. Le texte de la conférence devrait limiter le réchauffement climatique global sous la barre des 2 degrés par an. On se réjouit de voir le succès d'un bout de papier pour refroidir la planète. Ailleurs sur la planète donc, alors que la plupart des États européens se sont d'ailleurs montrés du doigt mutuellement aussi, pour leur gestion désastreuse des flux de réfugiés qui désirent y trouver résidence, le Premier ministre canadien, fraîchement élu, et Justin Trudeau d'ailleurs, ça c'est son nom, qu'on appelle aussi le président Bisounours, si vous avez déjà vu une seule photo de lui, vous savez de quoi je parle, a énervé ses homologues du monde entier, en se montrant hyper sympa avec ses réfugiés syriens. Il a accueilli le premier convoi aérien en personne à l'aéroport de Toronto.
Il a piloté l'avion.
presque. Et il a distribué des manteaux d'hiver aux arrivants. Alors enfin, au Canada, c'est un peu une mesure de survie, mais quand même, c'est assez sympa.
Et il leur a fait la bise.
Seconde, voilà. Voilà, il n'avait pas peur qu'ils aient la gale. Imaginez une seule seconde Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Johann Schneiderman faire ça. C'est marrant, non?
Oui, non, alors, surtout Schneiderman en fait, mais
voilà, bon, lui, on imagine faire là, on ne souhaite à personne qu'il leur fasse la bise. Vous pouvez le taper sur Google, c'est notre nouveau président.
Oui, et c'est un grand patron très très bourgeois, très très vieux, très très excitant.
Voilà, un peu, oui, pas très excitant justement. Alors, tandis que les réfugiés syriens du Canada apprenaient déjà à jouer au hockey, une partie de ceux d'Allemagne, en collaboration avec d'autres qui viennent d'autres nationalités, ont célébré la nouvelle année par une tradition culturelle typique dans le pays des réfugiés, ça c'est les mouvements d'extrême droite qui vous le disent, en agressant des centaines de femmes lors de la nouvelle année à Cologne, en Allemagne. Alors des sources haut placées nous ont confirmé, nouvelle inédite, que ces actes étaient l'œuvre d'une collaboration super secrète entre l'État islamique, les réfugiés et Pegida, le mouvement d'extrême droite anti-musulman né en Allemagne.
Bien sûr.
Le deal stipulerait que Pegida, par ses actions plutôt idiotes, fournit un nombre croissant de recrues à l'État islamique, qui, pour le remercier, organiserait des tas d'activités en sol allemand, telles que cette agression sexuelle collective. Imaginez 1000 types à Cologne, puis plusieurs centaines dans d'autres villes européennes, ça demande une logistique que seuls eux possèdent. Du coup, c'est évident que c'est eux. Tout ça afin d'accroître la popularité de Pegida pour les remercier. D'ailleurs, on parle d'une visite de Lutz Bachmann à Raqqa dans les prochaines semaines. En réponse aux agressions, cependant, d'autres réfugiés ont organisé des manifestations pour exprimer leur colère et pour se désolidariser des événements de Cologne, notamment en distribuant des fleurs aux femmes dans les rues de Berlin. Mais bon, ça, personne n'en parle, hein. Et l'Allemagne, par contre, a réagi de manière beaucoup plus appropriée en refoulant encore plus de réfugiés vers l'Autriche, qui, elle, est un peu censée se démerder toute seule.
Qui, elle, regarde l'Hongrie avec un long regard froid.
Voilà, c'est ça. Un pays où les femmes ont été plus chanceuses qu'en Allemagne, c'est en Arabie Saoudite. Alors oui, ça me fait aussi étrange de prononcer cette phrase que pour vous de l'entendre, mais c'est vrai. Pour la première fois de l'histoire du royaume, les femmes ont pu non seulement voter, mais également se présenter aux élections, dans ce qui est l'équivalent des élections municipales. Alors c'est un progrès de fourmi, mais un progrès quand même. En même temps, l'Arabie Saoudite avance d'un côté mais recule de l'autre, puisqu'elle a récemment rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, à la suite d'une dispute engagée sur l'exécution par l'Arabie Saoudite de 47 personnes. Alors pour être juste et équitable, sur ces 47 personnes, il y avait 46 djihadistes et un imam chiite opposant au régime. On s'imagine qu'ils ont essayé de noyer l'exécution de l'opposant au régime au milieu de 46 djihadistes en se disant que personne ne va l'avoir.
C'était noyer le sang de l'un dans le sang des autres, mais oui.
Mais apparemment, le sang chiite se voit ou se sent de très loin, puisque Téhéran a répondu en organisant des manifestations de soutien aux chiites d'Arabie Saoudite et en se livrant à l'une de ses activités préférées, envahir et incendier des ambassades étrangères. Donc dans ce cas, celle de Riyad qui n'a pas beaucoup aimé et qui a rappelé tous ses ambassadeurs au pays. Alors, pour changer de catégorie, on passe à la catégorie humour. Le responsable chinois de la censure en ligne a affirmé le mois passé, dans une interview, qu'il n'y avait pas de censure en Chine.
Bah non.
On se demande un peu pourquoi on l'appelle du coup le responsable de la censure en ligne. Mais enfin.
Parce qu'il s'assure qu'il n'y en ait pas.
Voilà. Et les autorités chinoises ont été plutôt marrantes la semaine passée également, puisqu'ils ont construit, puis détruit, une statue dorée représentant Mao, qui faisait 37 mètres de haut. On imagine qu'ils se lancent dans une nouvelle... comment ça s'appelle ? Un truc d'art contemporain, une performance.
Une
performance artistique intéressante, surprenante dans tous les cas. Alors, dans le reste du monde, un virus provoque la naissance d'enfants avec un cerveau minuscule au Brésil. Les mauvaises langues vous diront que ce n'est pas récent. Et puis, dans une autre partie du monde, le premier ministre indien a rendu visite à son homologue pakistanais pour la première fois depuis 2001. Alors, c'était officiellement, tenez-vous bien, c'était pour lui souhaiter un bon anniversaire. La diplomatie, c'est aussi ça. Et du coup, vous apprenez par là même que Nawaz Sharif, le premier ministre pakistanais, est né le 25 décembre, comme Jésus. À mon avis, il y a Anguille Souroche. Enfin bref, du coup, Modi a téléphoné à Nawaz Sharif, lui a chanté joyeux anniversaire, et voilà que 4 heures plus tard, il débarque à Lahore avec toute sa clique. C'est un peu embarrassant. Imaginez que votre pire ennemi, celui avec qui vous avez presque fait une guerre nucléaire, arrive dans votre jardin le jour de votre anniversaire et mange tout le gâteau. C'est à peu de choses près ce que Modi a fait, mais enfin, c'est certainement un bon signe pour les relations entre les deux pays. Et pour finir, la Corée du Nord aurait testé une bombe à hydrogène sur son territoire. Alors pendant que les experts du monde entier essayent de prouver que ce n'est pas vrai, avec des arguments techniques que personne ne peut vérifier, puisque finalement nous ne sommes pas tous des physiciens nucléaires, la Corée du Sud est sûre que c'est vrai et elle a trouvé ça très bien, puisque ça lui a donné une bonne excuse pour rebrancher ses haut-parleurs géants et diffuser de la K-pop à plein tube au-dessus de la frontière.
C'était peut-être ça en fait. Il voulait juste un peu de musique en prenant sa douche.
Oui, voilà. Alors,
Moon, il avait pas envie de demander aux voisins.
Des événements est en réponse à l'autre, finalement. Hein. Mais si vous voulez écouter les morceaux qui ont été diffusés, vous pouvez les trouver sur YouTube. C'est absolument intolérable.
Très bien.
Voilà, alors Yann, je te passe la parole. Tu vas nous ramener en Europe et puis tu vas nous parler d'un pays que tu aimes beaucoup.
On va parler d'ailleurs de musique intolérable, hein. C'est bien, sans vouloir, ça se prolonge totalement. Là, maintenant, vous écoutez un podcast. Nous vivons à une époque moderne où beaucoup d'émissions se découvrent désormais ainsi et où la musique passe par des canaux tels que Spotify, Deezer ou Apple Music. Toutefois, les radios musicales résistent encore et toujours à la concurrence du numérique, arguant que leur capacité à proposer une sélection musicale cohérente, une sorte de ligne éditoriale du groove, leur permet de se différencier de services en ligne, tournant majoritairement à l'algorithme froid et calculateur. Entre en scène Monsieur Joe Kohlhofer, animateur radio autrichien, sur la chaîne Antennae Carinthia, en faisant partie d'un binôme animant dès 8h du matin, donc l'antenne avec de la musique. Fin décembre, ce petit malin décida de se barricader dans le studio, empêchant sa co-animatrice de faire quoi que ce soit, et a diffusé Last Christmas de Wham! Last Christmas, déjà à la base, c'est pas exactement la meilleure chanson des fêtes. Elle est horriblement années 80, elle est donc très répétitive, et les paroles sont très mélodramatico-coconnes. Je n'ai hélas pas eu le temps de vous les traduire proprement, j'ai à vrai dire juste eu le temps de les passer dans Google Traduction. Ça donne, Noël dernier, je vous ai donné mon cœur, mais dès le lendemain, vous lui avez donné l'écart. Cette année, pour me sauver de larmes, je vais vous donner à quelqu'un de spécial. Une fois mordu et deux fois timide, je garde mes distances, mais vous attrapez toujours mon œil. Dis-moi, bébé, me reconnaissez-vous ? Eh bien, ça a été une année, cela ne me surprend pas. Je l'enveloppais et l'ai envoyé, avec une note disant « Je vous aime, je le pensais. Maintenant, je sais ce qu'est un imbécile, je suis allé, mais si vous m'embrassez maintenant, je sais que tu me trompais de nouveau. Une salle bondée, amie avec les yeux fatigués, je vous cachais et votre âme de glace. Mon Dieu, que je pensais que vous étiez quelqu'un sur qui compter. Moi, je suppose que je suis une épaule sur laquelle pleurer. » Un visage sur un amant avec un feu dans son cœur, un homme sous le couvert, mais vous me déchirez. Maintenant, je l'ai trouvé un réel amour, vous ne serez jamais me tromper de nouveau. Avouez que c'est pas très jojo, surtout le premier couplet.
Moi j'aime bien.
Surtout le premier couplet qui est en fait le refrain et qui est notamment chanté deux fois au début de la chanson et que je vous ai vraiment épargné. Super répétitif donc. Non content de passer Last Christmas aux pauvres âmes en peine bloquées dans les bouchons d'Autriche, ce filou de Joe Kolhofer a décidé de le passer 24 fois de suite, soit pendant près de 2 heures, alternant cette chanson aux appels un brin énervé des auditeurs qui lui demandaient d'arrêter de faire le gland. En fait, c'est en recevant au standard un appel de sa fille de 4 ans que Joe décida finalement de passer à autre chose.
C'est un peu comme les négociations pour empêcher les preneurs de tâches. Tu les mets au téléphone avec des membres de leur famille pour changer leur...
La bonne technique.
Oui.
La petite, dans un éclair de bon goût, lui ont dit en direct que la chanson lui déplaisait carrément. Au final, le directeur de la station, Tommy Schmidt, a décidé d'une sanction correspondant tout à fait à l'écart de conduite. Il a été forcé d'animer en direct à Noël et à Nouvel An.
Ça c'est bien, les Autrichiens, ils ont le sens de la mesure comme ça.
Et maintenant, avec toi, grâce à toi, Émilie, dernier voyage international de cet épisode, nous
voilà.
Partons à pied par la Chine.
Exactement, alors ça tue complètement ma transition, mais du coup, je vais vous induire un peu en erreur en vous parlant...
Merde
de... Non, c'est pas grave, en vous parlant de Grindr. Est-ce que tu connais Grindr, Yann?
De non, parce que j'ai des potes gays.
D'accord, alors Grindr, je suppose que vous le savez, mais je vais quand même vous le présenter, c'est une application de rencontres pour homosexuels. Ce que vous ignorez peut-être, par contre, c'est que Grindr est le grand précurseur des applications modernes que l'on connaît aujourd'hui, et qui est arrivé sur le marché bien avant toutes celles dont vous êtes familier, avec lesquelles vous êtes familier plutôt. Alors, la grande innovation de Grindr était en fait de baser le système de match, donc de correspondance entre les gens, sur la proximité géographique grâce au GPS des téléphones. Aujourd'hui, le marché est contrôlé par une corporation qui s'appelle Interactive Corp, qui possède notamment OkCupid, Match ou Tinder. Grindr, par contre...
Le nom le plus subtil du monde, quoi, Interactive Corp. Oui, tu travailles dans quoi? Non, c'est interactif.
D'accord.
Oui, alors ils essayent de rester un peu...
Vague.
Un peu flou, voilà, un peu vague sur leur business model. Mais Grindr, du coup, reste une relativement petite entreprise qui n'est pas possédée par une grande compagnie. Enfin, c'était le cas jusqu'à il y a quelques jours, quand 60% de Grindr a été racheté par l'entreprise Kulintech. Alors Kulintech, comme Yann vous l'a subtilement fait deviner...
Désolé.
C'est une entreprise chinoise et c'est une entreprise de jeux vidéo. Alors Kulintech est gérée par un nouveau millionnaire qui s'appelle... Ah non, j'ai oublié son nom et j'ai oublié de le noter. Je suis désolée, vous pouvez le chercher sur Google.
What?
Mais donc, c'est un de ces nouveaux riches qui est apparu l'an passé sur la liste des 100 personnes les plus riches du monde du magazine Forbes, par exemple.
D'accord.
Et donc, Kulintech a racheté Grindr, donc 60% de Grindr, pour la modique somme de 93 millions de dollars. C'est une jolie petite somme. Et en fait, avec ce rachat, Grindr est maintenant... a maintenant acquis une valeur de 155 millions de dollars. C'est plutôt pas mal. Donc, pour les fun facts, Kulintech a notamment introduit Angry Birds en Chine, il y a quelques années. Les mauvaises langues diront que c'est la même chose cette fois. Mais enfin, vous vous demandez peut-être, du coup, si la Chine est le meilleur marché pour les applications pour homosexuels. Alors, je vous rassure, c'est moins pire que ce qu'on pourrait passer. On n'est pas en Iran. on n'est pas aux Émirats Arabes Unis, mais enfin, c'est toujours pas terrible. Jusqu'en 1997, l'homosexualité était un crime en Chine, et donc en 1997, on l'a dépénalisé, mais elle est restée classifiée comme une maladie mentale jusqu'en 2001.
Mmh.
Aujourd'hui, si les tabous légaux en fait ont disparu, cela n'empêche pas le tabou social de persister très fortement. Mais par contre, cela n'a pas empêché en retour l'équivalent en fait de Grindr en chinois, qui s'appelle Blood, de se développer et qui compte maintenant jusqu'à 15 millions d'utilisateurs. Donc Grindr, pour les chiffres, posséderait au maximum 5 millions d'utilisateurs dans le reste du monde. Alors certes, ils sont répartis sur 196 pays, mais contre les 15 millions d'utilisateurs en Chine, on se dit que le rachat de Grindr par Kelun-Tech n'est pas vraiment destiné à introduire Grindr en Chine, mais bien juste pour se faire un peu de pognon. C'est pas surprenant.
C'est toujours bon à prendre. Voilà.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur Grindr, du coup.
Très bien.
Et je ne trouve pas de transition entre l'homosexualité et la Suisse, malheureusement, donc je vais simplement vous laisser avec Yann.
Il y a des gueux en Suisse, ils ont le droit de l'être, très bien, tant mieux. Enfin, voilà.
Oui, alors bien sûr, hein, mais...
Wow.
Du coup, voilà. Nous allons simplement passer de la Chine à la Suisse, et même plus précisément dans la charmante petite ville de Neuchâtel.
Exactement, dans le canton, pour être même un peu plus large. En Suisse, les partis politiques ont bien entendu une antenne nationale, mais ils sont aussi découpés par sections cantonales, ce qui fait que, bah voilà, il n'y a pas forcément la même opinion, par exemple, au Parti Socialiste Genevois, tout à l'ouest, du côté, par exemple, du côté roman, du côté francophone, que le Parti Socialiste du côté, par exemple, de Zurich ou de cantons affriolants comme Uri, Schwyz, Unterwald, etc. Ils ne sont pas forcément positionnés pareil. Ce qui change aussi, c'est que ces sections cantonales-là, elles sont assez souvent protectionnistes sur leurs membres, sur la composition de leur parti, c'est-à-dire qu'en fait, ils gardent jalousement leur liste de membres pour pouvoir rester indispensables et pas pouvoir être gobés par le parti au niveau national, mais aussi sur leurs moyens. Ils aiment bien lever des fonds dans leur coin, faire des alliances dans leur coin, pour pouvoir, là aussi, avoir une certaine indépendance et pouvoir défendre certaines sensibilités régionales. Alors, on a un parti qui s'appelle le PBD. En Suisse, c'est le parti bourgeois démocratique. Je dis tout le temps démocrate, mais c'est démocratique. C'est un parti bourgeois de droite. C'est la section soft de l'UDC, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, la scission soft de l'UDC qui est apparue lorsqu'Evelyn Widmer-Schlumpf a pris le poste de Christoph Blocher, qui était à l'époque le chef de l'UDC, au gouvernement. Elle était à l'époque dans l'UDC, mais étant donné que Christoph Blocher avait prévenu que quiconque se présenterait à sa place se ferait exclure, eh bien non seulement il l'a exclu elle, mais il a exclu aussi toute la section cantonale dans laquelle elle était, parce que c'était pas possible selon le règlement de l'UDC de faire autrement que de directement virer toute une section cantonale. Le PBD se dit centriste, il en a été flottant entre le centre droit et la droite, un peu l'image inverse du PDC qui est flottant entre le centre droit et le centre gauche quand ça lui chante. Le 13 décembre, par voie de dépêche ATS, l'équivalent suisse de Reuters ou de l'AFP, la section neuchâteloise du PBD a simplement décidé de se dissoudre elle-même 5 ans après sa fondation. Cette dissolution, décidée au moment de la démission du comité, est la cause, selon l'ex-comité en question, d'un manque d'engagement total des membres qui, à mon avis, comme l'électeur suisse moyen, regarde le PBD comme une étrange bizarrerie politique helvétique, une étrangeté inutile de laquelle on préfère détourner les yeux d'un air absent. Car à vrai dire, des politiciens de centre-droite, en vérité, c'est pas vraiment ça qui manque. Entre l'aile droite du PS, les Verts libéraux, les centristes girouettes du PDC une semaine sur deux, et les UDC les plus endormis style Samuel Schmitt, ça va, on a un joli stock. Évidemment, tout spectateur de la vie politique suisse, un brin observateur, fera le lien entre cette disparition du parti et le départ d'Evelyn Widmer-Schlumpf du Conseil fédéral, seul membre du PBD à n'avoir jamais accédé au gouvernement, et ce, sur un énorme coup de poker. Un tour de passe-passe qui ne risque pas de se reproduire de sitôt. Il est logique que le parti, créé quasi exclusivement autour de Madame Widmer-Schlumpf, se casse la figure une fois que celle-ci n'apparaît plus comme pertinente dans le jeu politique du pays. On peut donc imaginer que les 7 élus PBD Neuchâtel, désormais sans étiquette, retrouveront très vite un toit quelque part à droite ou au centre. Des gens éligibles, c'est pas vraiment ça que les autres partis vont refuser. Quant au reste du PBD, franchement, je sais pas où il peut vraiment aller. Certes, il a gagné 4 sièges législatifs de plus entre les élections fédérales de 2011 et celles de 2015, mais désormais, c'est sans leader reconnu que le parti devra avancer, et avec une section cantonale en moins. Même si elle ne lui est pas tout à fait promise, le système suisse étant plus clément que bien d'autres envers les petits partis, une mort lente du PBD me paraît pas hors de question.
Une mort lente et douloureuse, certainement.
Exactement, au fil des 4 prochaines années qui nous séparent des prochaines élections fédérales.
Absolument, mais plutôt, donc avant les élections fédérales, nous aurons des changements en fait intra-partis qui risquent d'arriver,
et
notamment
au plus grand parti de Suisse.
Voilà, du plus grand parti de Suisse, nous avons reçu la meilleure nouvelle de début 2016, mais moi je pense que c'est la meilleure nouvelle de tout 2016.
De la vie politique suisse.
Et on est le 13 janvier, c'est ça?
Ouais.
Alors, j'espère convaincre les non-suisses qu'il y a de bonnes raisons de se réjouir pour eux aussi.
Oui.
Mais ça ne va pas être trop compliqué. Alors, tenez-vous bien. Non seulement, Tony Brunner, l'actuel président de l'UDC, va quitter la présidence du parti en avril.
Oh.
Alors, c'est déjà bien. Mais surtout, il propose d'élire à sa place le conseiller national, Monsieur Albert Rösti.
Voilà.
Alors, Rösti.
Oui.
Non, Rösti, comme les Rösti.
Comme le plat. Et comme le Rösti Graben, hein, ce phénomène politique suisse qui sépare la région francophone et la région alémanique, la région francophone plus progressiste, la région alémanique plus conservatrice.
Voilà, alors je suppose que nous avons déjà introduit les Rösti dans cette émission, mais ça vaut la peine, à mon avis, de préciser ce qu'est le Rösti avant de parler du Rösti Graben.
Bah ouais.
Sinon, les gens risquent, nos chers auditeurs risquent d'être un peu perdus. Donc le Rösti est un plat national suisse, en effet, à base de pommes de terre qui sont coupées en petites, en pétales.
En lamelles.
En lamelles, voilà, et que l'on grille sur une poêle avec de l'huile.
Et mettez des oignons là-dedans, s'il vous plaît.
Pour une raison obscure, nous avons donc ce que Yann a appelé un phénomène politique.
Oui.
Qui est en fait, nous avons décidé qu'entre la région francophone et la région germanophone du pays, ne s'élevait pas une rivière, enfin s'élever une rivière, voilà, vous allez tous me tomber dessus pour ça. Disons une colline ou bien un cool, une petite rivière où il y a une barrière, je ne sais pas. Non, nous avons décidé qu'il y avait une barrière de Rösti.
C'est ça.
Donc dans l'imaginaire des Suisses, il y a des pétales de pommes de terre qui parsèment en fait le long de l'Ar, je crois.
Avec l'accent suisse-allemand, ça donne Rösti Graben.
Exactement. Et donc, vous entendrez tous les commentateurs politiques suisses vous parler du Rösti Graben à chaque votation, à chaque élection. Vous n'y manquerez pas.
Et puis surtout, à partir de maintenant, on va entendre « Ah là là, monsieur Rösti fait le mur !» C'est
oui,
drôle.
Oui, alors donc, c'est exactement drôle. Ça. Donc monsieur Albert Rösti risque d'être le premier type à se faire élire parce que son nom est patriotique. Moi, je ne dors plus la nuit justement en imaginant tous les jeux de mots qu'on pourra faire, mais surtout en imaginant tous les politiciens qui doivent tenter de garder leur sérieux lorsqu'ils lui parlent et essayer de ne pas faire des jeux de mots pourris comme Yann vient d'en faire un à ce moment-là. Mais
bienvenue chez les Rösti.
Voilà, donc voilà. Au-delà du fait qu'il a un nom merveilleux, moi je voulais quand même vous parler un peu d'autres facettes que monsieur Rösti possède, puisque on ne va pas le limiter à son nom, ce serait tout à fait indigne de l'approche que nous avons ici à Carrément Méchant, qui est d'aller au-delà des apparences, bien sûr. Et monsieur Rösti est un homme plutôt mystérieux et qu'on ne connaît pas beaucoup de notre côté du Rösti Graben, finalement. Donc je voulais vous donner quelques informations cruciales sur lui avant qu'il n'entre en poste.
Je t'écoute.
Alors, monsieur Albert Rösti vient du charmant petit village bernois de Frutigen, au pied des Alpes. Il a une femme qui est hôtesse de l'air et entraîneuse de fitness. Et ses deux enfants portent comme deuxième prénom le prénom de leurs parents.
Oh,
c'est-à-dire que vous avez André Albert et Sarina Thérèse, dont les parents s'appellent Albert et Thérèse.
Oh.
Alors ça ne veut certainement rien dire, mais moi ça ne m'inspire pas confiance du tout au niveau de la modestie de donner son propre nom à ses enfants. Alors bon, chose rare par contre pour un dirigeant UDC, Albert Rösti est déjà sorti de Suisse, miracle, et il a effectué en effet une année à New York pour faire un MBA.
Oh.
Mais avant ça, heureusement, il a fait ses études chez nous. C'est un ingénieur agronome formé à Zurich qui a longtemps présidé l'association suisse des producteurs de lait. Alors, on se dit qu'il ne pouvait pas vraiment commencer dans l'industrie de la pomme de terre, ça aurait été un peu embarrassant, mais enfin, c'est toujours un bonus d'essai, bien agrarien, qui protège nos agriculteurs. Par contre, récemment, Monsieur Rushdie a décidé que le lait, finalement, c'était pour les fillettes, et il a abandonné la présidence des producteurs de lait, donc de Swiss Milk, pour changer en faveur de la présidence de l'association suisse des négociants en pétrole, Swiss Oil.
Ah oui.
Qui est une entreprise, disons une sorte de lobby qui désire favoriser le commerce des combustibles de façon indépendante et performante. Alors ils ont une adresse email qui est intéressante et qui ne vous pose qui ne vous cache rien en fait sur
les intentions.
Voilà, sur les intentions. Vous pouvez leur écrire, on vous y répondra donc à la douce adresse email de info@petrole.ch. On se réjouit donc que Monsieur Rushdie milite pour une énergie plus verte.
Ah bah oui.
Et puis, dernière breaking news que l'on a appris récemment, au Moyen-Orient, on l'appellerait déjà le Cheikh Rushdie.
Je sais pas quoi en penser.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en penser, mais dans tous les cas, on pourra faire des jeux de mots. Ça ne va pas disparaître au long de cette année.
Rushdie ou pas Rushdie, c'est quand même un gros retour de karma pour l'UDC en ce moment. On vous a déjà parlé à de nombreuses reprises, le grand dada du parti UDC, le gros parti de droite populiste suisse, c'est l'immigration. Selon la ligne du parti, beaucoup trop d'étrangers entrent en Suisse, ce qui constitue un danger pour le mode de vie traditionnel des Helvètes et représente aussi une charge pour la santé économique et financière du pays. Du coup, toujours selon eux, il est grand temps d'y mettre un terme en fermant le robinet et les frontières qui vont avec, en laïcisant tout ce qui n'est pas chrétien, en renvoyant les criminels étrangers, en faisant des gestes grossiers que ma mère me défend de nommer aux diplomates européens, et en rendant le processus de naturalisation, c'est-à-dire l'accession à la nationalité suisse, un processus démocratique et non une démarche administrative. À travers leurs membres de parti au gouvernement, leur majorité au parlement, qu'ils ont depuis 2003, leur position de force dans de nombreux cantons de Suisse, ainsi qu'à travers une foultitude d'initiatives populaires lancées au cours des 20 dernières années, on peut dire que l'UDC a régulièrement réussi à se faire entendre sur ce sujet, conduisant la Suisse vers un cap un poil protectionniste en général et restrictif sur la question de l'immigration et des réfugiés en particulier. Or donc, cette politique ne semble pas tout à fait avoir l'effet escompté. En effet, si cette politique effraie avec succès les étrangers voulant entrer et s'installer en Suisse, elle les pousse aussi à se dépêcher et à venir en plus grand nombre. Selon une estimation RTS, en 2015, le nombre de naturalisations a tout simplement augmenté de 15%, ce qui hisse le nombre d'accessions au passeport rouge à croix blanche à 38 000 cas. Cet empressement fait écho aux années 70, lorsque le délicieux James Schwarzenbach, politicien suisse né en 1911 et mort en 1994, lança plusieurs initiatives populaires pour, je cite, « lutter contre la surpopulation étrangère », ce qui, dit près de 30 ans avant Schengen et les accords bilatéraux, paraît assez ridicule. Ce James Schwarzenbach faisait partie d'un mouvement sobrement intitulé « Action nationale contre l'emprise étrangère du peuple et de la patrie », et ses initiatives portaient alors les douces briquets de « contre la pénétration étrangère »,« contre l'emprise étrangère », pour une limitation du nombre annuel des naturalisations, ou encore pour la protection de la Suisse. Toujours est-il que les initiatives de l'Action nationale avaient elles aussi accéléré le nombre de demandes de naturalisation, malgré le fait que toutes furent refusées par le peuple. Preuve aussi qu'en politique, il n'est pas nécessaire de gagner pour avoir un effet, peu importe cet effet. Ah, et pour info, l'Action nationale contre l'emprise étrangère n'est absolument pas l'ancêtre de l'UDC. Non, non. Du tout. Ce mouvement est en fait devenu le parti des automobilistes et s'est alors radicalisé en réclamant la suppression de la pénalisation des déclarations et actes racistes et en proposant la peine de mort pour les dealers. Vroom vroom.
Oui, alors moi je trouve que c'est clairement un des plus beaux aspects de la politique suisse qu'on a eu le parti des automobilistes à un certain point.
Qui a disparu je crois en 2009, mais il a alterné entre ça et le parti de la liberté. C'est très très bizarre.
C'est la même chose au fond, non?
C'est le même en fait. Non, ils ont littéralement alterné le nom en fait. Ça a été Parti des automobilistes, Parti de la liberté, reparti des automobilistes. Parce que. voilà.
Parce que pourquoi pas.
Comme quoi, esprit motard, esprit connard, ça s'adapte aussi aux automobilistes hein, quand on y réfléchit bien.
Ça me paraît un beau slogan pour terminer cette émission, cette première émission de 2016.
Yes.
On espère qu'elle vous a plu, que vous êtes maintenant au taquet sur tout ce qu'il s'est passé depuis le début de l'année.
Oui!
Et on vous retrouvera le mois prochain.
Exactement, on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de Carrément Méchant. Merci,
Émilie. Le 20e numéro, d'ailleurs.
Oui, merci,
Émilie. On a mis du gâteau.
Oui, on le fera, ce sera en février, dis-moi, ce sera la folie.
Oui.
Folie la plus totale. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur radiokawa.com, télécharger, podcaster l'émission. Vous pouvez aussi la prendre sur iTunes et nous donner un commentaire et des petites étoiles dessus. Ça nous aide à progresser sur le store. @méchantRK sur Twitter. @Euroulet pour toi sur Twitter, Emily.
Oui, et @InksHD pour toi, Yann, sur Twitter également.
Fantastique.
Et en attendant, nous, on va retourner dormir parce qu'il est vraiment tôt et je crois qu'on en a besoin.
Ciao.
Du coup, bonne nuit.
Bonne nuit.
Aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. Les Tauliers, une émission Radio Kawa. I'm with the devil in the shotgun place, living it down to saw your face.